Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation parce que votre éclairage est intéressant dans cette période particulière, près de 3 mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle qui a débuté le 13 mai dernier. Où en est-on aujourd'hui? Selon vous, on parle d'une accalmie, d'un retour progressif à la normale. Est-ce que c'est également le sentiment que vous avez?
Quand j'entends ça, je suis furieux. Je suis furieux. Qu'est-ce qui s'arrange? Moi, ce que je constate, c'est que ça fait 3 mois et 3 jours. Demain, évidemment, ça fera 3 mois et 4 jours. Plus les jours passent, et plus ça s'aggrave. Un jour de plus, c'est une gravité de plus. Faut pas se raconter d'histoire. Alors, je sais, évidemment, que certains ont pour rôle d'essayer de minimiser les choses. Mais surtout, il faut pas qu'ils essayent de nous faire croire qu'on va vivre avec ça. On n'est pas le Liban, nous. On n'est pas le Liban. Faut pas qu'ils essayent de nous dire bah, c'est comme ça, bah, ça restera comme ça, etc.
Il y a moins d'exactions, il y a moins de barrages sur les
routes.
Oui,
mais par exemple, il y a encore quelques jours de ça, ça chauffait dur à Tuban, et puis encore à Ducos, il y a encore des choses qui brûlent, et puis ça continue. Le monument aux morts de Païta, par exemple, bah, ça, c'est pas il y a 3 semaines, c'est là, ça continue. Est-ce que quand vous prenez le col de la pirogue, vous n'êtes pas sûr de prendre une balle? Ben oui. Il y a quand même 2 gendarmes qui ont commencé à se faire tirer dessus. Ben oui. Tout ça, ça continue. Tout ça, ça continue. Et puis surtout, ce qui continue, C'est Saint-Louis. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
Alors Saint-Louis, on parle maintenant du verrou de Saint-Louis, puisque bon, la circulation est complètement bloquée. 12 000 personnes sont toujours bloquées au Mont d'Or-Sud. Et alors, la question que se posent quand même tous les Calédoniens, c'est pourquoi les forces de l'ordre n'arrivent pas à régler la situation? Il y a énormément de forces de l'ordre sur le territoire. Apparemment, ils veulent s'occuper de Saint-Louis, ils sont sur place. Pourquoi ça n'aboutit pas?
Alors, vous savez, je viens de dire, faut pas nous raconter d'histoire. Hein, je viens de dire ça. Mais je le dis d'autant plus, c'est que y en a qui ont tendance à s'acclimater. Voilà. Bah, c'est comme ça, on fait avec. Non, parce que c'est un peu plus tous les jours. Hein, voilà. Les forces de l'ordre, moi, je trouve qu'elles sont particulièrement organisées, elles sont particulièrement efficaces. Elles ont des moyens considérables. Là, il faut saluer l'État pour les moyens considérables qui ont été envoyés ici. Les Centaures, qui sont des engins nouveaux, il y en a 16. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, la qualité des hommes qui dirigent. Moi, je veux dire, le plus grand bien du général de gendarmerie, M. Mathéos. Je veux dire, le plus grand bien du haut-commissaire, et je le redis, heureusement que ce haut-commissaire-là, on l'a, et heureusement qu'il n'a pas fait l'ENA, mais qu'il a fait Saint-Cyr. Heureusement. C'est des gens qui sont prêts, qui sont organisés, ils savent exactement comment il faut faire, j'en suis infiniment persuadé, pour rentrer dans Saint-Louis.
Mais alors pourquoi ils n'y rentrent pas?
Ah ben voilà, alors la bonne question c'est voilà, pourquoi ils ne rentrent pas dans Saint-Louis? Eh ben parce que il faut obtenir l'autorisation de Paris. Et pourquoi l'autorisation de Paris? Parce qu'il y a des risques. Est-ce que, c'est la question que pose Paris, est-ce que quand ils rentrent dans Saint-Louis, il y a de la casse? Autrement dit, est-ce qu'il y a des morts, d'un côté comme de l'autre? Voilà. C'est ce que ne peut pas supporter Paris. Alors, quand je dis Paris, c'est pas que de la faute du président de la République, parce que c'est sûr que ça remonte jusqu'à lui, c'est lui qui doit donner l'autorisation. C'est pas que Paris. Ils sont tous comme ça à Paris. Toute la classe politique est comme ça. Ça fait 40 ans que je connais ça, ça fait 40 ans que je vis ça. Regardez bien à tous les niveaux, tous ceux qui ont fait tout ce massacre avec des morts et compagnie, c'est toujours pas des terroristes. Non, c'est toujours pas des terroristes. Et on règle pas le problème parce que ils peuvent pas considérer que c'est des terroristes. Et regardez dans votre radio que j'écoute religieusement parce que là j'ai des vraies informations. Celui qui est passé au tribunal ce matin, il dit moi je suis pas un terroriste. Je poursuis des idées politiques. C'est le cas dans un mouvement politique. Justement, on va en parler du mouvement politique qui s'appelle l'UC. Voilà. Mais le fond de l'affaire, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Je vous fais juste une petite parenthèse. Moi, j'ai été voir plusieurs fois Marine Le Pen, notamment fin février de cette année 2024, pour lui expliquer toutes les mesures pour la Calédonie qu'il fallait prendre, parce qu'il y avait besoin de ses voix au Sénat comme à l'Assemblée nationale.
Pour le vote modification du corps électoral.
Voilà. La première fois, tout ça s'est bien passé. Et je lui dis, je suis retourné la voir 3 semaines après. son état d'esprit avait complètement changé. Je vais vous dire pourquoi. C'est complètement changé. Mais qu'est-ce qu'elle me dit surtout ? Ah là là, attention, hein, attention. Il ne faut pas qu'il y ait de mort. Il ne faut pas que les forces de l'ordre répriment par la force. Ça, non, il ne faut pas. Marine Le Pen qui dit ça. Donc, vous vous rendez compte, quand vous partez après sur la gauche, et que vous finissez chez Mélenchon, vous imaginez ? Ça, c'est tout notre problème.
C'est voilà. Le traumatisme d'Ouvéa qui persiste 40 ans
non.
après ?
Non, c'est que il y a des idées, il y a un certain nombre d'idées, vous savez, les blancs, au siècle dernier, ont dominé les noirs, notamment en Afrique. Alors comme ici, il y a des blancs et des noirs, c'est forcément les blancs qui oppriment les noirs. Sauf que c'est juste le contraire. Quand on regarde objectivement la situation, c'est juste le contraire. C'est bien les blancs qui sont opprimés aujourd'hui, c'est pas autre chose que ça. Mais ça, avant de leur faire comprendre à Paris, ben, y aura de l'eau qui va passer sous la Seine. Hein. Voilà, ça c'est clair. Hein.
Ouais. Alors on en sort comment ? Il faut l'autorisation de Paris. À Paris, il n'y a pas de gouvernement. À Paris, il y a les Jeux Olympiques pour l'instant. Il faut attendre, à votre avis, la fin de cette séquence métropolitaine pour que les choses évoluent ou...
Non. C'est que à Paris, y a un président de la République et ces affaires-là, c'est le président de la République. Voilà. Quand Mitterrand, c'est bien Mitterrand qui décide et personne d'autre, et certainement pas Chirac ni Ponce, qui décide d'aller libérer les otages à Ouvéa. Voilà. Bon, c'est le président de la République. Voilà. Alors après, il peut avoir un gouvernement hostile à ça, il peut avoir un gouvernement pour, mais enfin, il y a toujours, au bout du compte, voilà. Parce qu'effectivement, il y a des risques. Mais voilà.
Et à Nouméa, alors on essaie de parler autant que possible de la situation de ces 12 000 personnes qui sont bloquées au Mont d'Orsud, qui se sont prises en otage. Quand je vous parlais de l'accalmie, vous aviez l'air de protester. À Nouméa, on parle quand même d'une situation stabilisée dans la plupart des quartiers. Aujourd'hui, on peut circuler normalement, même les barrages vigilants sont actuellement un peu au repos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nouméa, ouais. Ça y est, c'est on contrôle la situation ?
Alors, à Nouméa, c'est comme le reste. Mais je crains que les Calédoniens soient sous la bonne image de la directrice adjointe de la police qui était intervenue sur le plateau, qui est venue dans votre émission, qui est charmante, souriante, etc., et qui nous ferait prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Parce que de dire qu'à Nouméa, c'est réglé, mais à Nouméa, il n'y a rien de réglé du tout. Mais vous voyez, il y a cette attitude de certains et d'accoutumance. Je vous donne un exemple tout bête. Mais quand vous passez la côte des lycées, et puis vous descendez sur l'orphelinat, vous faites la descente de l'orphelinat, puis dès que vous arrivez là, dans la grande ligne droite qui arrive à l'angle de Marine, tout de suite, sur votre droite, il y a des squatteurs qui sont là. Ils n'ont rien à faire là. Ils sont entre la plage et puis le petit bout de terrain qui est avant la route. Ils sont là. On peut se demander pourquoi ils sont là. Sauf qu'ils sont là pourquoi ? Parce qu'il y a un commerce qui n'est pas loin, pour ne pas le citer, Carrefour, et ils vont régulièrement racketter, il n'y a pas d'autre mot, racketter les clients de ce magasin, ceux qui sortent, etc. Ben, personne ne fait rien. La ville de Nouméa pourrait peut-être faire quelque chose. La police municipale. Madame la directrice adjointe, par exemple. Mais de nous expliquer... Que tout va bien et que maintenant il n'y a plus besoin de faire de barrage, c'est de prendre une grande responsabilité. Alors je sais bien que cette dame, on lui fait dire, elle n'est pas la seule, mais c'est d'une grande responsabilité parce que je rappelle quand même que la phase 3 de la CCAT, c'était quoi ? C'était d'investir les quartiers sud, ça c'était pour l'image politique, et de faire ce qu'ils ont fait dans un certain nombre d'autres quartiers, c'était de faire à Nguéa et en particulier à Tuban, de rentrer dans les maisons, les saccager. Et vider les populations de ces maisons, éventuellement les tuer. Voilà. C'était ça qui était prévu. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Pour deux raisons. Un, parce qu'il y a eu les barrages des citoyens calédoniens, là, tous ces barrages. On a bien vu les fameux pick-up, ils se repèrent de loin. Les pick-up de Saint-Louis, on les connaît tous. Rentrer dans la ville, regarder, et de voir ce maillage de barrages et de barricades, comme je dis, ça leur a fait peur. Voilà. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est parce qu'à partir de 21h, les blindés de l'armée ont pris position un peu partout dans les secteurs, parce qu'ils devaient faire ça entre la nuit du mercredi au jeudi de la première semaine. Voilà. Mais si demain, alors, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus rien, tout le monde dit, ah ben, tout va bien maintenant, d'ailleurs, c'est l'État qui me le dit, ah, puis la directrice adjointe de la police me l'a dit, ben, ça va, oui. Oui.
Et puis, L'État qui va renvoyer des renforts en plus, encore, après les élections, après les Jeux Olympiques.
Mais il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque cocotier, on connaît bien l'histoire, hein. Et il est tout à fait possible que demain, il y a un groupe d'individus qui rentre dans une maison. Regardez quand même, on a vécu des choses extraordinaires, faut quand même bien s'en souvenir. Les maisons, les 20 ou 25 ou 30 maisons à Caméré, qui ont été investies par les individus, qui les ont brûlées, saccagées, etc. Il a fallu évacuer les occupants, les habitants, par la mer. Et pourtant, il y avait le GIGN sur place, et pourtant, il y avait de la police, et pourtant, il y avait des gendarmes, et pourtant... Mais combien de fois on a vu les gendarmes mobiles reculer devant les manifestants? Combien de fois on a vu la police recruter? Combien de fois on a téléphoné à la police? Combien de fois on a téléphoné à la gendarmerie qui ne sont pas venus? Et donc, aujourd'hui on fait confiance.
Donc, vous dites aux Calédoniens et aux Nouméens de rester mobilisés?
Oui. Et j'en profite pour faire une annonce, si je peux me permettre. Je profite de cette émission pour faire une annonce, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter. Dans la folie meurtrière, parce que c'est bien ça, de la première semaine, il y a une maison à Caméré qui a été attaquée. Alors, à partir du dimanche soir, déjà, ils sont pris des cailloux, des insultes, etc., parce que quand on rentre dans Caméré, il y a le premier rond-point, la maison est au-dessus. Voilà. Ils sont fait caillasser, insultes, etc. Bon, et puis ils ont passé téléphoner à la police, à la gendarmerie, la police, puis ça continue le mardi. Toujours est-il que... Et toujours pas de police, pas de gendarmerie, faut quand même bien avoir ça à l'esprit. Lundi, mardi, mercredi, voilà.
Les renforts n'étaient pas encore là.
Oui. Enfin bon, on n'est pas à Paume, là. On est à Nouméa, on est à Caméré, voilà. Et ils s'en étaient déjà suffisamment passés. Bon, le mercredi à 13h30, qu'est-ce qui se passe? Il y a un individu parfaitement identifié, parce que cette maison, il y avait des caméras autour, qui vient donner des instructions. Il n'était pas cagoulé, hein, du tout. Il faut attaquer cette maison parce que ceci, parce que cela, il faut la réduire en cendres, il faut la piller, il faut la brûler, il faut tous les tuer. Il y a ces images, ces commentaires. Et d'ailleurs, le type qui a dit ça, à ma connaissance, il court toujours. Bon, il doit être réfugié à Saint-Louis, bien sûr. Voilà. La horde de jeunes qui était là, elle a complètement défoncé au whisky, en fétamine, etc., ben, ils ont attaqué. Et donc, à l'intérieur de cette maison, ben, ils ont tiré. La conséquence de ça aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y en a un de Calédonien qui est dans une prison en métropole. Et ce Calédonien qui a tiré, ils ont été trois à tirer, et il y a un émeutier, un insurgé qui a été tué. Voilà, qui a été tué. C'est pour ça qu'il se retrouve en métropole, dans une cellule à l'isolement. Mais il avait quel choix, ce Calédonien? C'est pour ça que moi, j'entends, je fixe pas sur la directrice adjointe de la police, mais quel choix il avait, ce Calédonien? Quel choix il avait? Ben, ou de tirer, ce qu'il a fait, et de finir donc en prison, ou alors de finir au cimetière, parce qu'ils auraient été massacrés, Il y a une bonne raison pour laquelle ils ont voulu détruire cette maison, je ne vais pas la dire ici, je ne vais pas en rajouter, mais voilà. C'était ça le choix. Mais ça, demain matin, ça peut recommencer. Il y a des centaines et des centaines de Calédoniens qui peuvent demain, uniquement pour se défendre et pour éviter d'aller au cimetière, de se retrouver dans une prison métropole. Alors, je finis là-dessus, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais je finis là-dessus à toute vitesse. Ce Calédonien, alors, il y a eu l'enquête de mener, il y a eu trois tirs, donc ils ont décidé que c'était un d'entre eux, pof, ils l'ont envoyé, au bout de quelques temps. Il ne s'y attendait pas du tout, en métropole. Donc, aucune préparation, rien. Aujourd'hui, il est dans une prison en métropole, le malheureux, mais il ne connaît personne en métropole, il n'a pas de visite, il n'a rien. Personne ne s'occupe de lui. Parce que l'information qui a été donnée par le procureur de la République sur le sujet... Elle n'était pas grand-chose, quoi. On n'a pas compris grand-chose. Hein. Il n'a pas donné de détails. J'ai retenu qu'il avait tiré dans le dos. Ce que me disent ceux qui ont vécu cette affaire, il n'a pas tiré dans le dos. Il s'est défendu quand ils ont tiré. Pourquoi? Parce que les gens venaient les tuer. C'est le sentiment qu'ils ont eu. Mais faut bien se rendre compte de cette situation, de ces images à l'époque. C'était Apocalypse Now, le truc. Hein. C'était, voilà.
Bon, donc, il a été extradé.
Il a été extradé, voilà. Moi, je connaissais comme ça l'histoire parce qu'avait dit la justice, mais j'ai eu l'occasion donc de voir cette famille. Donc, il faut que nous, les Calédoniens, on soit solidaires. Il faut qu'on soit solidaires. Et il ne faut pas qu'on le laisse tomber, ce malheureux. Donc, moi, je vais lancer un comité de soutien à ce Calédonien. Je ne veux pas donner son identité. La page Facebook va sortir. Là, elle doit être en train de sortir au moment où je vous parle. Et moi, je demande aux Calédoniens d'adhérer massivement. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses simples qu'on peut faire. Pour que ce malheureux en prison, il sache qu'il y a quand même du soutien en Calédonie. Et puis, on va s'organiser avec ce comité de soutien pour lui trouver un avocat en métropole. Alors, l'affaire, elle est logée toujours ici. Donc, il y a un avocat ici qui s'en occupe, bien. Mais il faudra à un moment donné trouver, je suppose, un spécialiste de la légitime défense, parce que là, c'est un cas avéré de légitime défense, mais c'est avéré.
Voilà, il y a une page Facebook, il y a une adresse pour y avoir...
Il faut faire attention aux mots, donc c'est un comité de soutien à un Calédonien incarcéré en métropole. Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais quand on regarde bien, il y a peut-être pas. C'est un cas avéré de légitime défense. Pourquoi l'envoyer en métropole ? Alors, surtout que le dossier est toujours logé ici. Pourquoi ?
On va vous dire qu'il y en a 11 de la CCAT qui ont été extradés en métropole également.
Ah ben voilà.
C'est parallélisme des sanctions.
Voilà, parallélisme, l'équilibre et la formule du procureur de la République qui est venu ici. Il l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de poids et de mesure. Voilà, de poids et de mesure. Oui, mais la légitime défense, c'est peut-être quand même autre chose. De poids et de mesure, je veux bien, quand les affaires sont similaires. Mais là, ce malheureux, il n'a pas demandé à tuer quiconque, lui. Hein. Pas demandé, hein. Il a juste essayé de sauver sa peau et de celle, parce qu'il s'était regroupé dans cette famille, parce qu'évidemment, dans la situation dans laquelle ils étaient. Et donc, il y avait une dizaine de personnes. Bon.
Donc, une page Facebook pour ce comité de soutien que vous avez créé. Hein,
oui, vraiment.
Cette initiative personnelle.
Oui, oui. Voilà, parce que moi, je l'ai appris, les Calédoniens ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que je le révèle de cette manière et je leur demande d'adhérer. Et puis après, avec cette page, je leur donnerai des informations au fur et à mesure. J'espère qu'on va trouver les voies et moyens de le faire visiter en métropole, que quelqu'un s'occupe de lui. Parce qu'après, on voit hein, la masse d'avocats en métropole qui défendent M. Théin, M. Machin, M. Truc. On voit tous les députés écolos de gauche, de l'ultra-gauche, aller les visiter, etc. Ben oui, ben, nous, il faut qu'on soit solidaires des nôtres. Hein, voilà, parce que, je le redis, ça aurait pu arriver à tout un chacun.
Ouais. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous dites que les gens doivent rester mobilisés, que vous n'êtes pas sûr, loin de là, que l'ordre soit complètement établi. Maintenant, il y a une autre inquiétude que vous sentez bien dans la population, que vous entendez comme nous. Un certain nombre de déclarations laissent entendre que le 24 septembre va être une date... une date choc, une date symbolique, une date à laquelle il pourrait se passer des choses. Alors on parle de déclaration unilatérale de l'indépendance, les coutumiers également disent qu'ils veulent le déclarer. Est-ce que vous craignez l'approche de ce 24 septembre ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose ?
Alors, je le crains beaucoup. Parce que le 13, on ne craignait pas le 13, hein, le 13 mai. Et bien maintenant, on a intérêt à craindre parce que rien n'est fini, rien n'est fini. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, je le redis, la CCAT ira jusqu'au bout du bout. Et à mon avis, ils n'ont pas tellement d'autres choix dans les circonstances actuelles. Ils iront jusqu'au bout. Mais qui va aller jusqu'au bout, la CCAT, avec leur organisation, qui est toujours féroce sur le terrain ? Je vois à Païta, il y a un QG à Païta, là où ils se réunissent les uns et les autres, et ils décident des actions du soir. Voilà, il y a des QG comme ça partout. Évidemment, le centre névralgique, c'est Saint-Louis, évidemment. Bon. Mais ceux-là, ils vont continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, un, il faut rester mobilisé. Deux, il faut vraiment que nous, les Calédoniens, on apporte notre soutien aux individus, aux 11 000, 12 000 personnes qui sont bloquées derrière Saint-Louis. Parce que c'est pas possible. Il faut se mettre une seule minute à la place de ces gens-là. Alors, la présidente de la province a bien fait de mettre des bateaux parce qu'il faut trouver des situations, mais c'est pas la panacée non plus, hein, parce que c'est pas des bateaux adaptés, etc. Donc aujourd'hui, l'État finance très bien. La province et que l'État souhaitent aller plus loin, mais il faut pas que ça s'éternise dans le temps, cette affaire. Hein. Il faut pas que ça devienne définitif pour aller dans le sud, il faut passer par la mer. Non, mais bon. Mais alors, donc, sur le qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je suis très sensible à ça, le qu'est-ce qu'il faut faire pour le 24 septembre, voilà. Alors, je vais être très clair là-dessus. J'ai un bon ami qui est venu sur votre radio, il s'appelle M. Blaise. Quand il dit la CCAT, il faut savoir que le 24, on sera là. Alors d'accord, on n'était pas là le 13 mai, mais on sera le 24. Je rends ce type de déclaration, parce que c'est des mots. Il n'était pas là le 13, comme moi, mais il n'était pas là le 14, il n'était pas là le 15, il n'était pas là le 16. Donc il ne faut pas qu'il nous dise maintenant qu'il va être là à présent le 24. Sinon, il va faire quoi ? Il va finir dans une prison en métropole. Non,
puis, bon, alors on fait quoi ?
Voilà, alors... Donc, il faut quand même faire bien attention. Donc, moi, j'ai d'abord le souci de ces gens bloqués de l'autre côté. Donc, je vous l'ai dit, c'est une décision au sommet de la République. Eh bien, il faut qu'on se mobilise pour ça. Il y a une très bonne association au Mandor qui existe depuis bien temps, Belle Lurette. C'est l'association des Mandoriens.
Des citoyens mandoriens.
Voilà, qui essayent de se défendre des malheureux, mais eux, depuis longtemps, parce que ça dure depuis 30 ans, hein, cette farce hein, de Saint-Louis. Bon, ils sont de plus en plus désespérés. Alors, ils sont responsables, ces gens-là. Ils sont patients. C'est pas pour autant qu'ils crachent sur la France ou crachent sur l'État, c'est pas ça. Mais... Quand le président Florent Perrin, qui est président maintenant depuis longtemps, dit que, non mais là c'est plus possible puisque ça continue, il l'a dit il y a quelques jours, on va finir par manifester, oui, Oui, moi je lui dis, il faut manifester, il faut aller manifester au Haut-Saria. C'est pas de la faute du haut-commissaire, c'est pas contre le haut-commissaire. Mais faut se mobiliser, faut aller au Haut-Saria, manifester une fois, deux fois, trois fois, dix fois, en attendant que pour que cette affaire soit solutionnée. Il faut qu'on montre qu'on ne va pas abandonner les gens du Mont d'Or, et qu'on ne va pas... Voilà. Donc c'est l'élément 1, il est important. Donc si le président de l'association nous dit la semaine prochaine, il faut qu'on se retrouve devant le Haut-Saria, ben oui, on y va. Et moi, j'assiderai les gens à y aller. Alors on n'a pas besoin d'y rester 3 heures, 4 heures, mais on y va pour marquer le coup, pour marquer le coup. On ne va pas là-bas pour casser, évidemment. On ne va pas là-bas pour s'en prendre aux forces de l'ordre, on n'en est pas là. Mais on va là-bas pour se manifester.
Ça sert à quoi? Pour faire remonter le message
oui,
à Paris?
Et puis demander que on a une sacrée capacité, une extraordinaire capacité d'encaisser. Si nous, les Calédoniens, étaient tous des boxeurs, on serait les champions du monde. On encaisse. Oui, OK, on encaisse. À un moment donné, ça va quand même. Voilà. Alors, après, l'État met les moyens, etc. Mais et ils sont organisés. Mais il faut une décision politique qui est difficile à prendre à Paris, parce que je vous ai dit le contexte. Voilà. Alors, pour le 24 septembre, ce qu'il faut, c'est que nous, je viens de le dire, qu'on réagisse. Ça, c'est un. Mais deux, ce qu'il faut aussi, c'est que les différents parrains de la CCAT, ils soient arrêtés, parce que là, on en a arrêté 11. Mais il y en a des tas d'autres, qui sont des petits caïds, qui règnent. Eux, qui ne vont pas d'action, ils donnent des ordres. L'État le sait, l'État a tout ce qu'il faut. Ces gens-là, ils sont toujours agissants. Donc, si à un moment donné, on ne les arrête pas, oui. Voilà. Mais ensuite, il faut aussi, évidemment, ça commence par là, libérer Saint-Louis. Il faut purger Saint-Louis. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont recherchés, ils sont là-bas, dans Saint-Louis, parce qu'ils pensent qu'à Saint-Louis, c'est une zone de non-droit, ils n'y risqueront jamais rien. Ils se permettent tous les jours de tirer sur les gendarmes, tous les jours, avec des armes sophistiquées. Et puis quoi, ils sont 50, 60. Mais pendant combien de temps encore ça va se produire? C'est pas possible. Et si on veut, pour le 24 septembre, avoir le moins d'ennuis possible, il faut commencer à casser, détruire le Saint-Louis. Pourquoi? Parce que c'est le centre névralgique. La CCAT est née à Saint-Louis et c'est le centre névralgique. Voilà.
Et vous attendez également l'interpellation de commanditaires, de complices. Alors, il y a beaucoup de noms qui circulent, hein, mais c'est vrai qu'il y en a eu 11 qui ont été interpellés, qui ont été extradés en métropole. Il y en a encore beaucoup, selon vous, qui devraient être interpellés à leur tour.
Alors, il y a tous ces petits caïds là, dont je parlais, tous les petits chefs qui continuent à animer la CCAT. Hein. La CCAT fait des congrès, elle explique aux élus ce qu'ils doivent faire. Alors. Mais ensuite, il y a les fameux commanditaires, dont le procureur de la République a parlé ici à plusieurs reprises. Donc le président de la République a dit, sur les commanditaires, ils seront poursuivis, ils seront recherchés, poursuivis, entendus, etc. Je ne doute pas de ça. Mais il a dit, le procureur, il faut des bons dossiers, il faut qu'il y ait tout dans le dossier, parce qu'attention, il y a des avocats en face. Alors, effectivement, faire attention, il y aura des avocats en France, en face, il y en a déjà qui sont arrivés de Paris, les bons gauchistes habituels, il faut des dossiers. Mais quand même, au bout de 3 mois, les dossiers, ils sont clairs. Hein, ils sont clairs. Donc maintenant, il faut passer à l'action, parce que ça ne peut plus continuer. Alors, la CCAT, c'est quoi? C'est le bras armé de l'UC. Il y a des responsables à l'UC. Il y a des responsables. Bon, on sait bien la part qu'a prise dans cette affaire Rocco Amitan. Mais bien sûr que oui, il n'a pas été que complice, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre. Non, il a été organisateur, auteur. La bonne preuve, c'est que sa directrice de cabinet a été envoyée aussi en métropole, a été incarcérée en métropole. C'est pas pour rien. Bon, y a lui. On sait aussi la part qu'a prise dans cette affaire notre ami Gilbert, par exemple. Gilbert Cuyénon, voilà. Il y en a quelques autres. Dominique Folchi, secrétaire général de l'UC, il a bien dit, à un moment donné, je l'ai entendu, je l'ai vu à la radio, à la télévision, dire qu'il était la cheville ouvrière de la CCAT. Voilà. Mais ces gens-là, alors, après, c'est à la justice de décider. Je me mets pas à la place du juge. Mais il faut au moins que ces gens-là soient en garde à vue, entendus. Alors, si effectivement, ils n'ont rien fait, ben, ils apporteront les preuves. Mais sinon, s'ils en fait, comme les autres, ou comme ce brave Calédonien, ce brave Caldoche, comme on dit, en métropole, dans une prison en métropole, ben oui. Mais on ne peut pas. Parce que j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que quand j'entends dire M. Macron qu'il prend le dossier en main, bah oui, c'est très bien, le président de la République, c'est lui qui le mange, ça c'est très bien. Et qu'il va appeler les uns et les autres à venir à Paris. Mais il va appeler qui à Paris? Ou à mi-temps et qu'on sort. Mais Metzdorf, il l'a dit dans la campagne électorale, on ne va pas discuter avec des terroristes. On ne va pas discuter avec des terroristes, voilà. Et on ne peut pas discuter. Je ne vois pas comment tout d'un coup on se retrouverait, enfin, on ne se retrouve pas moi, mais les uns et les autres se retrouveraient à Paris à discuter comme si de rien n'était et à faire des projections sur l'avenir. Parce que ce qu'ils ont fait là, le jour où ils ne sont pas contents, ils recommencent. Après-demain, etc. Regardez la déclaration comme de Wamitan, elle a été claire, elle a dit, on sera prêt à sacrifier 1000 jeunes. Bah, d'ailleurs, les derniers chiffres du Haut-Sahara, c'est combien? 1800, 1900, il a fait mieux que sa prévision. Bon, voilà. Non, mais on ne peut pas continuer avec ça. Alors, à un moment donné...
Donc, avant le 24 septembre, il faut régler Saint-Louis et il faut interpeller les commanditaires, en tout cas, les meneurs de...
Les auteurs, les meneurs, les organisateurs, etc. Et puis, la CCAT, elle est née à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est aussi Wamitan, donc... Tout cela, ils sont concernés. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Quoi. Voilà.
On va parler politique également, même si c'est déjà de la politique. Mais les quatre, vous y faisiez allusion, les quatre parlementaires calédoniens ont été reçus à Paris par le président de la République. Il a proposé donc ces discussions auxquelles vous faisiez allusion en septembre à Paris. Mais il a également proposé le report des élections provinciales qui devaient avoir lieu le 12 mai, qui maintenant ont été reportées. Elles devaient avoir lieu avant le 15 décembre 2024. Le président de la République propose leur report. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut les reporter, il ne faut pas les reporter. À la fois, on se dit, dans le climat actuel, c'est compliqué de faire des élections.
Ce que j'en pense, c'est que c'est un formidable aveu de faiblesse.
De la part du chef de l'État.
Ben oui, c'est lui qui a le manche, c'est clair. Et il dit, on ne va pas pouvoir organiser les élections. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense que la situation actuelle, elle va continuer jusqu'à la fin de l'année? C'est ça qu'il pense? Ben oui, si on ne peut pas organiser les élections. Ben oui, formidable aveu de faiblesse. Et puis alors, il dit, ça sera l'année prochaine. Bah, l'année prochaine, on se demande quand l'année prochaine.
Hein, on a jusqu'à novembre 2025.
Hein. Oui, enfin bon, il y a peut-être encore une loi qui pourrait nous le prolonger. Et en plus, dans la loi qui a été votée, on peut reparler de la loi, parce que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais c'était quoi? On avait un accord à trouver jusqu'à la fin du mois de novembre, et puis si on trouvait un accord même au dernier moment, bah, on reportait les élections pour pouvoir organiser les choses. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que M. Macron, il pense qu'il ne va pas trouver d'accord entre maintenant et la fin de l'année. Alors, évidemment, là-dessus, ça, je peux comprendre, parce que pour moi, il n'y en a pas d'accord. Il n'y en a pas. Comment vous voulez faire un accord avec le UC? Il faut bien distinguer, d'ailleurs, le palicat du UC. Moi, je n'ai rien contre le palicat, absolument rien. Ils sont responsables de rien, ils ne sont pas responsables de cette casse, etc. Seulement, le palicat, il fait un communiqué dernièrement pour dire « On veut bien discuter, mais à partir de l'indépendance association, rien d'autre ». Ah ben oui, mais on n'a pas voté pour ça, on n'a pas voté trois fois pour ça, voilà. Et puis ce que je dis toujours, et qu'ils ont tous tendance à oublier, c'est qu'au-delà du fait qu'on a voté trois fois, on a aujourd'hui un droit à être français dans cette Calédonie, un droit à être français. Ce droit, on va pas nous l'enlever, ça y est, c'est fait, reconnu par la communauté internationale. Il faut toujours mettre ça en avant. Bon, voilà. Alors, deuxième chose, je vais émettre, ça m'arrive rarement, n'est-ce pas, quelques critiques à nos élus, en particulier à Nicolas. C'est que nos élus ils disent « Ah bon, bah, c'est très bien, c'est l'année prochaine. » Oui, bah, dans le contexte aujourd'hui, on peut dire « Bah oui, c'est plus simple, c'est plus rassurant de faire des élections l'année prochaine. » Surtout que si on devait faire des élections dans le contexte d'aujourd'hui, les urnes, elles vont être encore bourrées. Voilà. Parce que quand on me dit qu'aujourd'hui, les indépendantistes sont plus nombreux que nous, c'est faux. C'est qu'ils ont bourré les urnes, c'est tout, bourré. Comme jamais ça s'est passé en France. Mais même en Corse, ça s'est passé comme ça. Pourtant, ils sont forts en Corse pour ça, voilà. Bon, et donc pour le moins dans cette affaire-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les indépendantistes vont rester au pouvoir, au Congrès, au gouvernement, encore jusqu'à l'année prochaine, pour 2 ans? Non, non, non. Mais il nous faut des contreparties pour ça. On reporte les élections, ok, mais il nous faut des contreparties. Voilà.
De quel ordre est-ce qu'elles peuvent être, ces contreparties? Vous Alors, avez déjà des propositions à faire ou...
Mais les contreparties, elles sont simples. Elles sont dans le programme de nos partis politiques, celui de Baquès, celui du le Rassemblement, celui de Brial. Je dis Brial, je ne sais plus le nom du parti.
Le MPC.
Celui de Blaise, puis celui de Nicolas, voilà. Donc c'est dans le programme. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on voit bien, pour en sortir, il faut que... Il y a une administration directe, c'est-à-dire que l'État reprenne les choses en main. On le voit bien tous les jours, on le voit. Hier, vous aviez une émission très intéressante avec le monde économique. Il dit « rien n'avance ». Ben forcément, rien n'avance. Et il faut bien comprendre pourquoi rien n'avance. Et pourquoi l'État ne donne pas beaucoup de sous? C'est pas parce que l'État, ce dont on a besoin, c'est rien. Hein, c'est rien. C'est rien pour l'État. Il ne faut pas raconter d'histoire. Faire quoi une goutte d'eau dans la masse de la dette française? 3 100 milliards de dettes. Bon, et on leur demande quoi? 50 milliards de CFP, de 50 milliards d'euros sur 3 000. Bon, voilà. Mais Ça n'avance pas, pourquoi ? Parce que, un, le président de la République, il a dit, il faut que l'ordre soit rétabli. Et c'est normal qu'il le dise. Il est venu ici pour nous le dire, en plus. L'ordre n'est toujours pas rétabli. Il ne va pas donner de l'argent à des indépendantistes qui gouvernent le pays, aussi bien au gouvernement qu'au Congrès. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez dans cette situation ? Comment voulez-vous que dans cette situation, on s'en sorte ? Alors, là, je vois les opérations. Alors, l'État m'étend, donc la Nouvelle-Calédonie fait m'étend. Mais alors, comme la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'argent, alors on lui fait un prêt. Enfin, on ne s'en sortira pas. C'est comme la CAFAT.
Donc, administration directe de l'État, à la fois sur le plan économique, politique, il reprend tout en main.
Oui, à l'exception des provinces, parce que les provinces ne sont pas dans cette situation. Voilà. Mais regardez, la CAFAT, la CAFAT, on ne s'en sortira pas. La CAFAT, vous aviez ce matin un grand spécialiste que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, des retraites.
Dominique Rentier.
Voilà. Eh ben, il a bien dit que bientôt, c'était le tour de la CAFAT. Mais évidemment. Donc, il faut intégrer la CAFAT dans la sécurité sociale. Alors, garder la CAFAT, parce qu'elle a des règles de fonctionnement qui sont différentes de celles de la sécurité sociale. Mais il faut faire ça. On ne s'en sortira pas. Mais pour faire ça, ben, il faut effectivement que l'État vienne prendre la place.
Donc, report. D'accord pour un report des élections, s'il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est l'administration directe par l'État. Oui, et ensuite, on fait quoi ? Parce que vous dites, les discussions... vous voyez pas des discussions en septembre, c'est vrai que ça paraît compliqué.
Ce que je vois bien dans cette affaire-là, le gouvernement et le Congrès, à majorité indépendantiste, c'est quoi leur stratégie ? C'est toujours la même. Ils n'ont pas changé leur stratégie. L'Union calédonienne n'a pas changé sa stratégie. Sa stratégie, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui s'en vont. Donc plus les gens crèvent la faim ici, bah, plus ils partiront. Bah, oui, ben voilà. Donc on ne peut pas continuer encore 2 ans comme ça avec un tel gouvernement. Et un tel, enfin, ça tombe sous le sens. Et puis vous savez, l'autre jour, vous avez reçu M. Gigès qui disait qu'il mettait beaucoup d'activités pour trouver des solutions pour les entreprises. On l'a encore entendu ce matin. Bon, tout ça est vrai. Il essaye à son niveau. Mais seulement ce gouvernement... Oui, pardon, et j'ai pas fini ma phrase. Et donc, il se démène beaucoup pour ça. Très bien. Et il a dit quoi ? Il a dit qu'il fallait faire des économies, bien sûr, et qu'il fallait dégraisser le mammouth. Il est bien ce qu'il a dit, dégraisser le mammouth. Eh bien, faut savoir que le coût du personnel, c'est-à-dire des fonctionnaires et des contractuels, au gouvernement comme au Congrès, ça coûte quasiment 100 milliards de CFP. 100 milliards de CFP. Mais comment voulez-vous qu'on continue à assumer ça? C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à assumer ça. Voilà. Donc là encore, si l'État prend la suite, si l'État, il y a l'administration directe de l'État, ben, ça nous fera une économie. Ça nous fera une très bonne économie.
Encore faut-il qu'il soit d'accord et qu'il accepte cette administration directe.
Il faut comparer les chiffres aussi. J'ai dit 100 milliards, oui. Mais l'ensemble des impôts payés par les Calédoniens, c'est combien? C'est entre 150 et 160 milliards. Alors avant, parce que maintenant, il n'y a plus rien. Mais voilà. Donc
on est dans l'impasse. Pas de discussion pour l'instant. On ne peut plus parler d'un nouvel accord. Ça paraît complètement inenvisageable. Mais sur un plan institutionnel, il va bien falloir qu'on en sorte. Oui. Vous êtes l'un de ceux qui vous disent depuis des années, l'accord Nouméa, il est fini.
Oui.
Bon, et alors on fait quoi? Alors, il faut qu'on trouve une solution. Quelle solution institutionnelle peut trouver pour remettre la Calédonie en marche?
La solution institutionnelle, elle existe. Hein. Elle a été brillamment énoncée par Baquès.
L'autonomisation des provinces.
Oui, alors on peut envoyer ce mot-là, après un autre. Moi, j'emploie le mot « chacun chez soi ». Voilà, comme ça, on se comprend bien. Chacun chez soi, et chacun chez soi fait ce qu'il veut. Parce que, je vais revenir quand même 30 secondes là-dessus. Nicolas Metzdorf, Sonia Baquès ont beaucoup critiqué l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa nous a amené dans le mur, c'est scandaleux. On nous a truandé parce qu'on nous a dit de vivre ensemble, et puis c'est pas le vivre ensemble du tout, c'est juste au contraire, etc. Alors moi je partage pas ça, parce que je considère que l'accord de Nouméa est un très bon outil. Mais en revanche, je suis complètement d'accord avec eux sur la conclusion. C'est que l'accord de Nouméa, c'est fini. Donc la base des discussions, c'est parce qu'on a un droit ici à vivre français, c'est pas l'indépendance association ou l'État, parce que maintenant il y a un nouveau truc, l'État associé. Voilà. C'est pas tout ça. C'est on reprend la page à zéro. Il n'y a plus d'accord de Nouméa. Il est fini. De toute façon, il est fini. La restriction du corps électoral aussi, elle est terminée. C'était lié à l'accord de Nouméa. Et c'est pour ça que, qu'on était dans cette phase transitoire pour avoir une restriction du corps électoral. Tout ça, c'est fini. On reprend la page à zéro. Et donc, Metzdorf a dit, c'est pas un accord maintenant, c'est un compromis.
C'est un compromis politique qu'il faut trouver.
Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on mette en place la proposition de Baquès, parce que c'est la seule façon de pouvoir fonctionner pour l'avenir. D'autres l'ont dit avant, Pierre Frogier l'a dit. Et puis, 30 secondes, bon, je sais qu'il est tard, je regarde l'heure, mais très rapidement. Quand les provinces ont été créées en 1988, l'idée de force, c'était quoi ? C'était de partager le pouvoir économique et puis le pouvoir politique. Tu vois, trois provinces, pouvoir économique, pouvoir politique. Ça a très bien fonctionné pendant 10 ans, ça, tout le monde le reconnaît, oui. Mais quand il y a eu un débat pour savoir qui a été l'auteur de cette idée lumineuse, qui c'est qui a pensé à créer les provinces ? Alors les uns et les autres sont tirés la couverture à soi. Enfin moi je me souviens quand même bien de ce que disait Jacques Lafleur. Il disait déjà cette notion du chacun chez soi, c'est-à-dire si tout ça marche pas à terme, on ira chacun dans nos provinces. Voilà. C'était la vision de Jacques Lafleur. Et on a toujours été sur cette ligne. On a tout essayé. Ils nous ont trempés, ils nous ont menti. Plus on a été trahis par les Christnart, Édouard Philippe et compagnie. Et voilà, on a été trahis. Ils ont trahi l'accord de Nouméa. C'est eux qui l'ont foutu en l'air. Voilà.
Alors, dès qu'on dit différenciation provinciale, autonomisation des provinces, etc., on vous répond partition, apartheid. Qu'est-ce que vous répondez à ces objections ?
Mais l'objection, elle est toute simple. La Calédonie est française, c'est reconnu par la communauté internationale. Voilà. Bon, donc on fait trois provinces, chacun fera comme il veut dans sa province, chacun mènera la politique qu'il veut. Voilà. Alors, il y en aura qui auront une politique X, l'autre Y, mais je pense qu'il est très important. J'avais eu l'occasion de le dire ici. Je pense qu'il faut aussi, aujourd'hui, que les indépendantistes soient responsables. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire leur fin de mois. Jusqu'à présent, c'était pas ça, parce que c'était nous qui le faisions. Alors, si, depuis 2 ans, enfin, dans les conditions qu'on connaît. Ils sont responsables de leur politique. De leur politique, par exemple, au niveau de l'impôt, au niveau de l'impôt, de la fiscalité, de la politique au niveau du développement de la province, etc. Bon. Moi, je constate qu'on a été très généreux. Je vous ai souvent dit, si on a accepté l'inacceptable pour arriver à un vote, voilà. Ce vote, on l'a eu, je le redis, reconnu par la communauté internationale. Personne ne peut revenir là-dessus, personne. Voilà. C'est comme ça, c'est dans le marbre. Donc, on a fait tous les efforts qu'il fallait. Ben, ça ne marche pas, c'est fini. La clé de répartition, quand même, tout le monde sait bien ce que c'est aujourd'hui. Tout le monde sait. Ça donnait quoi ? Ça donnait toujours plus de gens du Nord, enfin plus, non. Je m'exprime mal, de Calanques du Nord et de Calanques des Îles, ici à Nouméa, pour X et Y raisons. Voilà. Et donc, la proposition de Baquès, elle est claire et nette, elle l'a dit suffisamment bien, il suffit d'aller relire son texte, et puis Baquès, elle a l'avantage de mettre déjà en œuvre tous les jours, déjà, les décisions qu'elle prend, regardez bien, je demande aux Calédoniens de regarder, les décisions qu'elle prend vont dans ce sens, voilà. Ça me va bien.
Bon, chacun chez soi, c'est ce qu'on retiendra de ces propositions
puis,
que vous faites.
Juste un dernier point, puisque vous me parlez de ça. Certains s'interrogent de savoir si tout le monde est d'accord. Bah, c'est le cas, par exemple, de Philippe Blaise, qui a dit sur votre plateau, il faut faire attention parce qu'il y a des nuances. Donc, là où on est, je vais prendre une image. Hein. Quand il y a le feu dans la salle de bain, à la cuisine, dans les dépendances, vous n'allez pas réunir les uns les autres au salon pour savoir s'il y a des différenciations dans la façon d'attaquer le feu. S'il y a des nuances pour attaquer le feu, non, on y va. Et on y va d'autant plus que les élections ont tranché la ligne. La ligne, elle est claire. Hein. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un député qui se représentait et qui faisait 10%. Ben oui, le député de Calédonie Ensemble, il a fait 10%. Alors qu'il se représentait, c'est un cas unique, ça. Voilà. Donc la ligne politique, elle est tranchée. La ligne politique, c'est dans la France et de manière claire. Voilà.
Et les circonstances imposent l'unité des partisans de la France.
Et donc, je ne vois pas d'ailleurs qui n'est pas d'accord, puisqu'il y a eu des élections, il y a eu un parti politique, deux partis politiques qui sont venus contre cette ligne. Ils ont été éliminés, voilà, on n'en parle plus. Alors, après, on ne va pas savoir si, par exemple, M. Naturel, à Dabert, il est d'accord. Parce que M. Naturel, moi, je constate quand même, hein, que M. Naturel, c'est lui qui a fait en sorte que M. Rouy soit élu président de la République, élu sénateur, excusez-moi. Et le résultat des courses, c'est que c'est le maire de Dabert actuel que vous avez reçu qui l'explique, c'est pas moi. C'est que la commune qui a le plus souffert, c'est Dabert. Juste retour des choses, parce que c'est clair. Sans Dabert, il n'était pas sénateur. Hein. Et puis je précise encore sur le sénateur qu'on dit, c'est pas très grave. Si, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que quand je vois Marine Le Pen la deuxième fois, c'est plus la même personne. Pourquoi ? Parce que M. Rouy est venu la voir avec Samuel Népéoun, Et il lui a expliqué exactement, mais exactement, ce qui, s'est pas, ce qui allait se passer le 13, le 14, le 15, etc. Il lui a dit, bonjour. Donc lui aussi, d'ailleurs, il est complice de cette opération, puisqu'il savait, il aurait dû le dénoncer. Il ne l'a pas fait, sénateur de la République. Il est aussi responsable, il faudra aussi lui demander des comptes. Voilà. Et puis quand même, je finis sur l'éveil océanien, ben, ils sont bien... ce n'est pas un groupe politique, contrairement à ce que croit la ministre, parce qu'elle les reçoit en tant que groupe politique. Ils ne sont pas groupe politique. Ils sont 3 au Congrès, il en faut 6 pour faire un groupe politique. Ils sont dans l'UC, FNLKS et puis nationalistes. Voilà. Ils sont là-dedans. Mais donc forcément qu'eux, ils savaient bien, puisqu'ils sont dedans. Qu'est-ce qui allait se passer le 13 ? Pourquoi ils n'ont rien dit ? Pourquoi ils n'ont rien dit ? Ils sont responsables aussi. Ils sont en tout cas pour le moins complices. Donc eux aussi doivent être poursuivis. Ouais, voilà.
Langage très clair, comme d'habitude, Harold Martin. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. La fin de ce magazine à 12h49. Merci de l'avoir écouté.